lire deux textes d'introduction. Deux textes d'introduction dans le psaume 84, un psaume bien connu. Psaume 84, et nous lirons seulement le verset 6 dans ce psaume, et en suivant, nous irons dans la première épître de Pierre. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Et puis notre second texte dans la première de Pierre, un Pierre chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour sa parole, comme nous l'avons chanté. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est cette lumière qui vient de Dieu, qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin, cette parole qui est pleine de promesses, d'encouragement, cette parole aussi qui sait nous reprendre. Dimanche dernier, nous avions parlé de vivre dans l'incertitude. Je ne vais pas refaire le message de dimanche dernier, mais il est vrai qu'il y a des périodes dans notre vie où on n'y voit plus trop clair, où nos certitudes humaines s'écroulent. Et il est difficile dans des temps pareils de prendre des décisions. Aussi, nous voulons dans ces périodes-là regarder à notre Seigneur Jésus-Christ et lui faire pleinement confiance. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 84, verset 6, « Heureux celui qui prend pour appui le Seigneur, hein, qui place toute sa confiance en lui, il trouve alors des chemins tout tracés dans son cœur. » Au beau milieu donc de ces incertitudes, il y a un chemin qui est tracé dans notre cœur, et ce par le Seigneur Jésus-Christ. Un chemin tracé, donc un chemin où l'on sait eh bien, qu'on ne peut pas s'égarer parce qu'il y a ces traces-là, c'est un chemin tout tracé. Et les traces qui sont sûres et certaines, les traces qui ne font jamais défaut, les traces qui ne trompent pas, sont les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dira que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces, et nous l'avons lu tout à l'heure au verset 21. Et ce matin, j'aimerais vraiment insister là-dessus, suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ. Suivre les traces du Seigneur Jésus-Christ nous amène à vivre des choses extraordinaires. L'apôtre Pierre a été appelé à suivre Jésus alors qu'il était là, un simple, j'allais dire, marin-pêcheur. Jésus passe devant lui et lui dit « Suis-moi ». Et Pierre, laissant ses filets de pêche, va suivre le Seigneur. L'apôtre Pierre, pendant 3 ans à peu près, va suivre Jésus. Et puis, à un moment donné, il ne pourra pas suivre Jésus, il va faire faux bond, il va s'enfuir, il a peur, et il n'a pas pu aller jusque à la croix pour suivre Jésus. Il va même jusqu'à le renier. Pour autant, après la résurrection, le Seigneur va, en quelque sorte, réhabiliter Pierre, puisqu'il lui dira, eh bien, suis-moi, il va lui rappeler cet appel à le suivre, suis-moi. Alors, Pierre va dire, mais en pointant du doigt Jean, là, et lui, qu'est-ce qui va lui arriver? Que t'importe, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Pierre a dû comprendre que suivre Jésus, ce n'était pas simplement le suivre sur les routes du territoire d'Israël, ce n'était pas simplement voyager avec lui, mais suivre Jésus, c'était plus que cela. Puisque Jésus est ressuscité, qu'il est remonté à la droite de Dieu le Père, Pierre est encore appelé à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre son comportement, suivre son exemple, avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Pierre, qui fut appelé à suivre Jésus, nous transmet aussi ce message que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Afin que nous suivions ses traces. Le christianisme n'est pas une morale à suivre, mais le christianisme, c'est Jésus à suivre. Alléluia. Et nous voulons être sûrs et certains que notre foi est placée en Jésus. Et si notre foi est placée en Jésus et que nous suivions ses traces, nous irons au bon port. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ton exemple. Et ici, dans ce texte, l'apôtre Pierre va donner quelques traces. On peut, et on lira d'autres textes tout à l'heure. Et après avoir dit que Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces, il va dire « lui ». Donc, à ce moment-là encore, Pierre nous amène à regarder à Jésus en utilisant ce pronom « lui ». Il l'emploie d'ailleurs à quatre reprises. « Lui qui n'a point péché », au verset 23, « lui qui, injurié, ne rendait point d'injure ». Et puis au verset 24, il l'emploie encore à deux reprises. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix » et « lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri ». Devant cet exemple, nous qui étions comme des brebis errantes, nous avons vu les traces du Seigneur et l'apôtre Pierre terminera en disant « Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui as su à ce moment-là eh bien, nous ramener jusque près de ton cœur. » La première trace, et pas des moindres, c'est au verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché. » Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. C'est une trace qui est bien visible. Comme un pas sur la neige, on voit le pas sur la neige. Et là, on voit que Jésus, le Fils de Dieu, lui qui est mort pour le péché, fut sans péché. C'est une trace, car en fin de compte, tous nous sommes à la même enseigne. Il n'y a aucun de nous sur cette terre et dans ce lieu qui n'est sans péché. Tous ont péché, nous dit la parole de Dieu. Aucun de nous, est sans péché. Mais il y a une trace qui sort du lot. Il y a quelqu'un qui fait la différence. Et quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait la différence, c'est bien visible, c'est notoire. Et là, Jésus, qui a été tenté comme nous en toutes choses, n'a point commis de péché. Merci Seigneur. Il n'a point commis de péché. Il nous a laissé ainsi un exemple. C'est une trace à suivre. Bien sûr, tant que nous serons bien sur cette terre, de temps en temps, notre vieil homme refait un petit peu surface. Et malheureusement, il y a certaines choses dans notre vie qui ne devraient pas. Mais en nous, il y a l'Esprit de Dieu qui alors nous saisit, qui alors nous amène à la repentance, afin que nous puissions suivre les traces sans péché de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a point commis de péché, et dans sa bouche, il ne s'est point commis de fraude. Il n'a point dit de fraude. Il n'y a rien eu dans son comportement comme dans sa bouche. Eh bien, malgré tous les pièges qu'ont pu lui dresser ses ennemis, les pharisiens, entre autres, et puis tous les autres, là, qui tendaient des pièges à Jésus pour essayer de récupérer quelques paroles que Jésus aurait dit à tort ou à travers, mais ils n'ont rien pu trouver. Aussi a-t-il fallu pour eux de payer des faux témoins pour dire des choses que Jésus n'aurait pas dit, ou alors les transformer, les modifier quelque peu. Mais Jésus n'a point commis de péché, et dans sa bouche, eh bien, il ne s'est point trouvé de fraude. Notre bouche à nous, par contre, il suffit de lire Jacques chapitre 3 pour voir que, malheureusement, par cette même bouche avec laquelle nous avons tout à l'heure béni notre Seigneur et fait monter nos louanges, par cette même bouche, parfois, eh bien, il faut bien reconnaître que nous avons été sujets à la critique, voire à la médisance. Mais nous voulons suivre les traces de notre Seigneur, te ressembler, Seigneur Jésus. Alléluia. Te ressembler, Seigneur Jésus. Nous voulons chercher et marcher dans la sanctification. Deuxième trace, au verset 23, lui qui injuriait, ne rendez point d'injure. Là encore, c'est vrai que c'est lié aux lèvres, aux paroles. Il n'a point dit de fraude, mais il n'a point fait d'injure non plus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il y a là même deux traces dans ce verset 23. La première partie de ce verset nous dit que lui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace. Donc Jésus n'a pas, dit œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion le disait, mais Jésus s'est comporté autrement. Devant les injures qu'on a pu lui faire, et elles furent nombreuses, et elles furent encore plus nombreuses, sur la croix, et il y a eu un déferlement d'injures sur Jésus, de moqueries à la croix, et même avant la croix, certains disaient de lui qu'il chassait les démons par le prince des démons. Donc on voit que là, c'était quand même une injure qu'on donnait à Jésus, mais devant tout cela, Jésus qui injuriait n'a point rendu d'injure, il a été maltraité, mais il n'a point fait de menace. J'aimerais avec vous lire dans Luc chapitre 6, Luc chapitre 6, on va voir ici un enseignement de Jésus que nous connaissons bien, un état d'esprit qui animait notre Seigneur, un sentiment qui animait notre Seigneur, verset 27, Luc 6, verset 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Voilà l'enseignement que Jésus nous a laissé une trace. Il a non seulement dit ces choses-là, mais il l'a mise en pratique. Parce que Jésus injurié n'a point rendu d'injure. Maltraité n'a point fait de menace. Et ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a transmis dans son enseignement, il l'a fait, il a aimé ses ennemis. Il a fait du bien à ceux qui le haïssaient. Il a béni ceux qui étaient en train de le maudire. Il a prié pour ceux qui le maltraitent, même réclamant leur pardon, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». On lui a frappé sur la joue et il ne s'est point esquivé. Il a présenté aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ce n'est pas à nous qu'appartient la vengeance. L'apôtre Paul nous le dira bien. Ne pas rendre le mal pour le mal, et c'est ainsi un cercle qui n'en finit point. Dans certaines sociétés, dans certaines cultures, C'est un honneur que de se venger. Si on ne se venge pas, c'est un déshonneur. Si on ne se venge pas, c'est un déshonneur. Mais Jésus va à l'encontre de cela. Nous montrons là eh bien, que l'exemple qu'il nous laisse, vraiment, c'est de bénir ceux qu'ils maudissent. Il va casser ainsi cet engrenage du cycle des vengeances qui est là. Il est dans Jésus, eh bien, dans une culture où il faut vraiment rendre ce qu'on m'a fait, je le rends, œil pour œil, dent pour dent, mais Jésus va aller au-delà de cela, il va aimer ses ennemis, il va faire du bien à ceux qui le haïssent. Car en fin de compte, c'est placé sur le fait qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tous pécheurs. Si Jésus qui est sans péché, et on comprend pourquoi l'apôtre Pierre commence par cette première trace, il vient d'établir que Jésus est sans péché. Si lui qui est sans péché ne rend point l'injure à ceux qui l'injurent, si lui qui est sans péché aime ses ennemis, si lui qui est sans péché bénit ceux qui le maudissent, si lui qui est sans péché, eh bien, prie pour ceux qui le maltraitent, a bien plus forte raison, nous, qui sommes des pécheurs, tous de la même nature. Notre Dieu nous dit que c'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est le juste juge. Il connaît toutes choses. Et il est dit ici, au verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. » Mais on voit, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà notre attitude de cœur que nous devons avoir, une trace vraiment qui est là, bien visible, sur laquelle nous voulons nous engager, s'en remettre à celui qui juge justement. C'est la confiance en notre Dieu. Je parlais d'incertitude la semaine dernière. Et parfois, les incertitudes sont dues à notre entourage. On se dit parfois, excusez-moi l'expression, à quelle sauce je vais te manger. Hein. Mais nous pouvons nous en remettre à celui qui juge justement. Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Nous en remettons au Seigneur face à la haine, face à la moquerie, face à l'opposition, nous trouvons là le chemin de la confiance en notre Dieu qui amène une paix dans le cœur parce que nous savons que quoi qu'on puisse nous faire, le Seigneur est celui qui nous tient dans sa main. Personne ne pourra nous ravir de sa main et c'est lui qui aura le dernier mot sur notre vie. C'est lui qui aura le dernier mot sur notre vie. Alors, nous voulons vraiment le bénir et le glorifier comme tel. Verset 24, il y a une autre trace qui elle-même est très profonde et une trace merveilleuse. Il est dit au verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. » Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Jésus a souffert la croix. Nous le savons, nous le croyons. Jésus a souffert la croix portant nos péchés. Lui qui est sans péché, je le rappelle, c'est la première trace que nous donne l'apôtre Pierre dans ce texte, lui qui est sans péché a porté nos péchés. Lui, le juste, est mort pour des injustes. Non seulement il n'a point rendu d'injure, il n'a point fait de menace, mais en même temps, nous voyons ce qu'il était en train d'accomplir pour chacun d'entre nous. Il était en train de porter nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Merci Seigneur. Et ces traces-là, bien sûr, les questions de la croix ici, ces traces de Jésus nous conduisent à la croix. Et comme je le disais en introduction tout à l'heure, Pierre n'a pas pu aller jusque-là. Il n'a pas pu aller jusque-là. Il s'est enfui, il a eu peur. Ah, il a bien dégainé son épée à un moment donné. Hein. Ah, ce Pierre, on imagine ce Pierre un peu fougueux qui est là. On le voit dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Et Pierre, là, il va dégainer son épée. Et, ah, il y a du courage là pour faire ça, Pierre. Faut quand même le faire. Hein. Je ne sais pas si vous auriez fait ça, sortir une épée, et hop, je coupe l'oreille de quelqu'un. Je ne pense pas que c'était l'oreille qui voulait viser, Pierre. Hein. Je pense que c'était plutôt le coup. Hein. Mais il a raté son coup. Heureusement pour lui, ça aurait été un meurtrier. Mais il était déjà meurtrier dans sa tête. Mais en fin de compte, s'il a eu du courage pour faire ça, il n'a pas eu du courage pour aller jusqu'à la croix. Et alors, quand on lui disait, mais toi aussi, hein, tu étais avec lui là, Pierre a renié trois fois de connaître Jésus. Trois fois. Pierre n'a pas pu suivre cette trace-là, du moins à ce moment-là. Plus tard, des années plus tard, après la résurrection et l'ascension, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Nous le savons, et Jésus l'avait averti d'ailleurs, qu'il va mourir en martyr. À ce moment-là, il sera en mesure de suivre cette trace. Il s'est donné entièrement pour la cause de l'Évangile, il s'est donné entièrement pour Jésus-Christ, il s'est donné pour les âmes, il s'est donné pour les âmes. C'est une trace qui n'est pas facile à emprunter, cette trace vraiment du renoncement qui va jusqu'au bout pour les autres et pour Dieu. Et avec ceci, j'aimerais avec vous lire dans l'épître aux Philippiens, cette épître est merveilleuse, on le verra le mardi soir, mais dans Philippiens chapitre 2, oui, chapitre 2, c'est ça, verset 5, on retrouve cette même pensée, écrite peut-être différemment par l'apôtre Paul, mais ça se rejoint au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Avoir en nous les sentiments de Jésus. Juste avant, on n'a pas lu le verset 4, mais l'apôtre Paul nous invite à ne pas considérer nos propres intérêts, mais à considérer ceux des autres. Et là, il va porter nos regards sur Jésus, qui n'a pas cherché son intérêt, mais qui a cherché notre intérêt. Et c'est parce qu'il a cherché notre intérêt qu'il a été conduit sur la croix. Ici, il nous est parlé du dépouillement de Jésus. Il a été dépouillé, il s'est dépouillé lui-même, nous est-il dit. Il s'est dépouillé lui-même, verset 7. De quoi Jésus s'est-il dépouillé? De quoi Jésus s'est-il dépouillé? Je dirais que même si le plus riche de ce monde, l'homme le plus riche ou la femme la plus riche de ce monde, se dépouiller de toutes ses richesses, de tous ses biens mobiliers, immobiliers, de tous ses avoirs, de toutes ses actions en banque, etc., etc., et vivrait sans maison, comme un SDF dehors. Quand bien même quelqu'un le ferait, ça ne serait rien par rapport au dépouillement de Christ. En comparaison du dépouillement de Christ, ça ne serait rien. Ça ne serait rien. Jésus s'est dépouillé de la gloire. Il était avec son Père dans la gloire. Dans Jean chapitre 17, verset 5. Jean chapitre 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût. Il s'est dépouillé de cette gloire. Cette gloire qui lui sera rendue, parce que dans Philippiens, le passage dira que, après, bien sûr, la croix, il a été souverainement élevé et il a ce nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais Jésus a accepté de se dépouiller de cette gloire pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit par ailleurs que de riche il s'est appauvri afin que nous soyons enrichis du salut. Jésus a accepté de se dépouiller de cette gloire pour venir sur cette terre où il allait recevoir les menaces, les injures, les moqueries dont on a parlé tout à l'heure, cette terre meurtrière, cette terre qui le fera souffrir. Il a accepté de se dépouiller et d'aller jusque-là par amour pour chacun d'entre nous. Quand on réfléchit à ce dépouillement de Christ, quelque part, ça nous donne un peu le vertige. Ce dépouillement de Christ est extraordinaire et on pourrait en parler longuement. C'est une trace. Une trace que n'a pas pu suivre le jeune homme riche. Allez, tout ce que tu as, tu le vends et tu le donnes aux pauvres. Viens, suis-moi. Mettons-nous à la place du riche. Est-ce que vous vendriez votre maison, vos voitures, tous vos biens, vous le donneriez aux pauvres? Et vous partirez suivre Jésus. Mettons-nous à la place de ce jeune homme riche. Pas évident, hein, suivre cette trace-là. Alors, dans les Actes des Apôtres, on voit que certains vendaient leur maison. Et c'est une trace à laquelle, parfois, le Seigneur peut appeler certaines personnes. Ça peut arriver. C'est une trace qui n'est pas facile à prendre. Mais quand bien même nous le ferions, ça ne serait rien en comparaison. Et même si nous ne le faisons pas, nous voulons bien comprendre que tout ce que nous avons, tous nos biens que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Quelque part, nous sommes les gérants de ce que nous avons, parce que tout appartient au Seigneur. On veut avoir, en tout cas, cet état d'esprit-là. Et quand on a cet état d'esprit-là, on a quand même l'esprit bien plus tranquille et bien plus libre. Parce que tout ce que l'on possède, en fin de compte, nous amène à avoir bien des tracas et bien des soucis. Mais nous voulons considérer que tout ici-bas est appelé à disparaître. Mais revenons au dépouillement. Christ nous a laissé cet exemple, afin que nous aussi, nous puissions marcher sur cette trace. L'apôtre Pierre n'a pas pu aller jusque-là à ce moment-là, mais après, il le fera. C'est vrai que nous connaissons des échecs dans notre marche chrétienne, dans nos progrès, nous connaissons parfois des échecs et nous ne sommes pas prêts à renoncer à tout, nous ne sommes pas prêts à renoncer à nous-mêmes. Jésus a renoncé à cette gloire. Alors, nous qui, j'allais dire, sommes de cette terre faite avec la même pâte, comment nous sommes venus? Nous sommes venus tous de la même manière et qu'est-ce que nous allons emporter dans le ciel? Nous n'allons rien emporter. Quand bien même on se ferait ensevelir avec toute notre or et notre argent, on n'emportera rien. Par contre, si Jésus est dans notre cœur, ça change tout. J'aimerais avec vous encore lire un autre passage dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Là encore, ce passage porte nos regards sur Jésus. Nous suivons ses traces. Et Jésus a souffert la croix en vue de la joie qui lui était réservé. Et si aujourd'hui nous suivons les traces de Jésus, nous avons en vue quelque chose. Nous avons en vue quelque chose. Si aujourd'hui nous marchons sur les traces de Jésus qui fut sans péché, qui n'a point rendu d'injure, Jésus qui a été jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous, nous voulons suivre aussi cette trace de Jésus qui a regardé au-delà de tout cela, en vue de la joie qui lui était réservée. Si aujourd'hui nous pouvons marcher sur cela, sur ces traces-là, c'est que dans nos cœurs, il y a le Saint-Esprit qui porte nos regards sur une expérience, espérance merveilleuse et glorieuse avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après avoir souffert la croix, nous savons que Jésus a été élevé en gloire. Oui, nous voulons suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est bien sûr aller là où il nous dit d'aller, physiquement, bien sûr, mais pas seulement. On pourrait aller jusqu'à l'autre bout du monde sans suivre Jésus. On pourrait aller à l'autre bout du monde sans suivre Jésus. Et à l'inverse, on pourrait rester toute sa vie chez soi et suivre Jésus. Ce qui est important, c'est de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons que la foi en Jésus grandisse dans notre cœur et croître dans la grâce et dire « Seigneur, partout où tu iras, j'irai. » Alléluia. « Partout où tu me mèneras, j'irai, que ton nom soit glorifié. » Le Seigneur s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est une autre trace. Et nous voulons être prêts en toute occasion, à suivre Jésus là où il veut que nous allions physiquement, mais aussi dans notre âme, nous voulons lui ressembler de plus en plus. L'apôtre Paul dira « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, parce que cherchaient leur propre intérêt, mais ce n'est pas comme cela que nous sommes appelés à vivre et à nous comporter, mais nous voulons chercher les intérêts des autres à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors heureux ceux qui placent en toi leur appui, Seigneur, parce qu'ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Suivons ensemble les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ces traces-là, nous ne les voyons bien encore aujourd'hui et nous voulons marcher dans tes pas. Mettre nos pas dans tes pas, Seigneur, dans notre vie, dans nos choix, dans nos décisions. Seigneur, nous voulons avoir ces sentiments qui t'ont motivé, qui ont conduit tes propres pas, qui t'ont conduit jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous savons que nous aussi, tu nous appelles à porter notre croix. Et cette croix se transforme en bénédiction non seulement pour nous, mais pour les autres. Alors, Seigneur, nous voulons te suivre, en effet, et nous charger chaque jour de cette croix, Seigneur, en suivant tes traces, en plaçant toute notre confiance en toi, Seigneur, en ayant les regards fixés sur Jésus. Béni sois-tu parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous fortifie et qui nous révèle ta personne, qui nous révèle qui tu es, Seigneur, qui nous révèle ta parole aussi, en toute intelligence spirituelle. À toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen.